Bonjour à tous, nous sommes mercredi 9 mars 2022 et nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Jeune Actu pour traiter d'un nouveau thème. Cette semaine, le thème est le suivant, l'environnement aux États-Unis entre protection de la nature, exploitation des ressources et transformation des milieux depuis le 19e siècle et un rôle respectif de l'État fédéral et de l'État fédéré. Tout d'abord, nous allons écouter Lily qui va nous présenter les titres de l'actualité. Bonjour Lily.
Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, dans les titres de l'actualité, on revient du coup à lundi. Lundi, les autorités américaines et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis se sont concertées et souhaitent durcir les normes de pollution des véhicules lourds dans l'objectif de réduire l'impact sur les populations, surtout les populations défavorisées qui ont participé. D'autre part, ce mardi, Joe Biden a décidé d'interdire l'importation de pétrole et de production énergétique russe suite à l'invasion russe en Ukraine. Et pour finir, récemment, la ville de Los Angeles attaque en procès l'entreprise allemande Monsanto dans le but de sanctionner la pollution des eaux qu'elle a pu causer.
Merci beaucoup, Billy. Nous allons maintenant écouter la revue de presse que nous a préparée Boris.
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma revue de presse qui traite donc sur le sujet les États-Unis et l'environnement à l'échelle internationale, État, firme transnationale, ONG. Donc tout d'abord, j'ai choisi deux documents. Donc j'ai commencé par un article donc, qui vient du site nonfiction.fr donc, qui a été rédigé par Anthony Gouillon et qui se nomme « Le regard du chercheur » qui a été publié le 27 octobre 2020. Donc, dans cet article, il nous parle de la wilderness, c'est-à-dire la nature sauvage, soi-disant inhabitée. Donc ce qui distingue les États-Unis du vieux continent, ce serait justement ces contrées sauvages où l'être humain n'aurait pas sa place. C'est donc au XIXe siècle que se constitue le mouvement préservationniste ou encore Wilderness Movement. Il s'agit d'un mouvement d'élite blanche qui cherche à préserver la nature sauvage face à l'urbanisation et l'industrialisation de la nation pour des raisons tout simplement patriotiques, esthétiques ou spirituelles, nous informe Anthony Gouillon. Dès le XIXe siècle, les conflits d'usage se multiplient quant à l'utilisation des ressources naturelles. D'un côté, nous avons les intérêts industriels et commerciaux qui veulent exploiter chaque potentialité coûte que coûte. Et de l'autre, il y a le Wilderness Movement, mais il y a également d'autres groupes d'intérêts comme les conservationnistes qui souhaitent une utilisation raisonnée de la nature permettant le renouvellement des écosystèmes et de maintenir donc la durée d'exploitation des ressources. Cependant, c'est au XXIe siècle que les États-Unis prennent la voie de l'exploitation sans prendre en compte l'environnement avec l'élection de Donald Trump. Donc nous savons que Donald Trump refuse d'accepter la réalité du réchauffement climatique et durant son mandat, il est revenu sur l'ensemble des acquis depuis la période Obama, voire même depuis les années 70 et l'émergence d'un État régulateur en matière d'environnement. En deuxième document, j'ai choisi tout simplement un roman, le roman d'Elsa de Vienne, qui a été publié en 2020 et qui se nomme « La ruée vers le sable ». La ruée vers le sable donc fait l'histoire des plages de Los Angeles et qui restitue la profondeur historique derrière les noms mythiques que sont devenus les plages de Los Angeles. Elle nous conte dans cette histoire la campagne de modernisation des plages américaines et plus particulièrement les plus connues pour être devenues des véritables stations balnéaires comme Santa Monica, Venice et Malibu. Donc cette opération qui tient à la fois de la transformation volontariste et de la préservation puisque les bords de mer avaient été profondément dégradés par l'industrie pétrolière dans les années 1930. On parle alors d'une transformation radicale de l'écosystème côtier, mêlant histoire sociale, environnementale et culturelle. Cette œuvre nous montre donc à l'échelle locale l'impact qu'a la politique états-unienne, changeant radicalement un paysage et ses fonctions. Cela reste un exemple, cependant, parmi tant d'autres. En conclusion, nous pouvons donc dire que grâce à ces deux documents, nous avons des points de vue différents quant aux États-Unis par rapport donc à l'environnement. Donc nous avons un point de vue international avec les différents mouvements qui ont été mis en place et l'élection de Donald Trump. Mais nous avons aussi à l'échelle régionale, donc pour les plages dans le roman de Elsa de Vienne, qui nous montre tout simplement les actions qu'ont les Américains sur leur propre territoire et leur propre environnement. Merci de m'avoir écouté.
Merci Brice donc pour cette revue de presse de la semaine. Nous allons à présent écouter l'interlude musical d'un titre que nous a choisi Lily.
Merci. Donc la musique que j'ai choisie, ça a été produite par le rappeur Lil Dicky. C'est une chanson nommée Planets, en anglais du coup. Et cette chanson est en collaboration avec de nombreuses célébrités, ce qui permet d'avoir un message à la fois engagé, accessible à tous de par la chanson, et qui peut toucher beaucoup de personnes, étant donné que beaucoup de célébrités ont collaboré avec lui.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,
we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home.
Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge.
Get you fucked up.
And I'm Kanye West.
We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth.
Ba-dum, ba-dum, bum, ba-dum, ba-dee. We are the vultures, feed on the dead. Just some rhinos, horny as heck.
I'm just a giraffe, once with a snack.
Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about there, up and down with you?
I'm an elephant, I got junk in my trunk.
What the fuck am I, clown?
I'm a wolf.
I'm a squirrel looking for my next nut.
And I'm a pony, just a freak horse.
Yeah, but,
come on, get on.
Yeah,
giddy up, let's ride.
I'm HPV.
Sleep all the time, so what, it's cute.
Donc voilà, on vous a passé un extrait. Je vous invite aussi à aller voir le clip. C'est une animation qui peut être très drôle.
Parle plus fort. Parle plus fort.
C'est une animation qui est très rigolote si vous voulez passer du bon temps. Merci beaucoup pour le livre, pour cette interview musicale très enrichissante. Nous allons maintenant écouter Louis, qui va nous présenter la chronique de la semaine.
Bonjour Indira, merci. Donc aujourd'hui nous verrons l'implication des États-Unis dans le respect des normes environnementales à plusieurs échelles. On sait que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, ils ont donc besoin de produire. La production nécessite de la production de biens et de services, pour cela il faut détruire des ressources naturelles telles que le pétrole ou le charbon. En effet, on sait que 20% de l'énergie mondiale est consommée par les États-Unis et qu'ils émettent 15% des gaz à effet de serre. Il faudrait donc 5 planètes pour subvenir aux besoins si chaque personne vivait comme un individu des États-Unis. Il y a une forte société de consommation. Comme l'a affirmé George Bush père, le modèle de vie des États-Unis n'est pas négociable. Cette idée est reprise par ses successeurs. En effet, l'implication des États-Unis dans l'environnement par le passé était déplorable. Nous verrons donc la prise de conscience des États-Unis au niveau fédéral, avec le cas du Texas et de la Californie. Ensuite, nous verrons que ces actions sont limitées par les firmes transnationales et nous conclurons par la prise de conscience des jeunes aux États-Unis. Donc au niveau fédéral, le premier parc national a été inauguré en 1872 avec le parc du Yellowstone. Le pays compte 57 parcs nationaux en 2003, ce qui représente 34,4 millions d'hectares protégés par les autorités locales. Les premières lois environnementales ont vu le jour sous le président Nixon le 1er juillet 1970. Cette loi contraignait les organismes fédéraux à protéger l'écosystème. Nous verrons donc deux exemples. Premièrement, le cas du Texas, qui a subi les conséquences du réchauffement climatique avec le volcan Arrowhead. Il y a alors eu une forte prise de conscience. Selon une enquête réalisée par l'université de Houston, les mentalités ont évolué. En effet, 60% se disent préoccupés par le climat. De plus, 56% pensent que Joe Biden doit promouvoir et encourager et subventionner les technologies de gestion de carbone. Lors du retrait des accords de Paris sous la présidence de Donald Trump, 10 États ont signé un accord pour promouvoir l'idée de décarbonisme, ce qui représente quand même 160 millions d'habitants. Voyons un mauvais exemple. Au Texas, qui n'est pas forcément réputé pour le respect des normes environnementales, les mentalités ont aussi évolué. Le bilan carbone d'un individu au Texas est de 9,5 tonnes en 2016, soit plus de 5 fois plus que ce que prévoyaient les accords de Paris. Malgré ça, il y a une réelle amélioration, car on sait que 34% de leur énergie est renouvelable. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons les firmes transnationales. Les firmes transnationales s'appuient sur le principe qu'elles emploient pour ne pas respecter les principes environnementaux. Elles utilisent leur pouvoir économique pour influencer les décisions politiques. On appelle ça du lobbying. On sait que le lobby du charbon a financé la campagne de Donald Trump. On peut donc comprendre pourquoi Donald Trump ne respectait pas forcément les accords de Paris et s'en est même retiré, car il était lui-même financé par ses lobbies. Ensuite, il y a une forte prise de conscience des jeunes aux États-Unis. L'opinion publique a changé et lutte pour que les lois pour protéger l'environnement soient respectées. On peut voir qu'à New York, il y a des marches pour le climat qui ont rassemblé énormément de foules, notamment des jeunes. Et des organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans ce domaine. Elles font pression pour que les accords de Paris soient respectés. Je conclurai que c'est encourageant car il y a une forte prise de conscience aux États-Unis. Cependant, c'est compliqué car certaines firmes internationales qui ont autant de pouvoir que certains États font pression pour que ces accords ne soient pas respectés, pour qu'elles puissent continuer leur économie.
Merci beaucoup Louis pour cette approche qui est complète, qui est informée, qui a été travaillée. J'ai besoin d'une précision de vocabulaire. Quand vous raisonnez au niveau du Texas, est-ce que vous raisonnez au niveau fédéral?
Oui, c'est au niveau fédéral, puisque on sait que le Texas est un État fédéral.
Alors, quand vous l'exprimerez à l'avenir, il faudra dire que là, vous raisonnez à l'échelle des États, parce qu'en fait, le niveau fédéral...
Ah oui, c'est le niveau national.
Voilà, c'est le niveau national qui est au-dessus. Oui. D'accord, voilà, petite précision. Dans l'éventualité où vous traiteriez cette question au moment du grand oral, il faudra cette distinction. Et en fait, je suis en train d'essayer de vous amener à avoir une réflexion pour l'avenir. Louis, est-ce que vous pouvez imaginer une façon plus personnelle d'aborder ce chapitre si vous choisissez cette question au niveau du grand oral?
Je pourrais choisir ce chapitre au niveau du grand oral, parce que ça pourrait être un chapitre qui associe ma spécialité SES ainsi que la spécialité à GGSP, parce que je pense que j'ai plus de facilité en SES et je trouve plus pertinent de faire un sujet SES à GGSP et un sujet juste SES.
Ça serait tout à fait pertinent. Je pense qu'on a peut-être, on trouvera des solutions pour avoir une approche plus, comment dire, attractive et plus personnelle de la question. Là, maintenant, ça y est, vous avez la base pour votre traitement final. Je passe la parole à Mira.
Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine sur Radio Actu pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.